ce matin, dans les rues, j'ai croisé l'ombre pâle de ceux qui n'allaient nulle part. Les sourires, sitôt esquissés, sitôt effacés, passés à cet homme qu'on appelle le temps. Je croisais les regards vides, comme des grottes de Lascaux où plus personne n'aurait peint. Plus de rupestrerie, plus de stalactites, plus de stalagmites, mais le plat du sous-sol. Je croisais la peur et l'ennui. Le macadam qui gifle les semelles, et quand tu lèves les yeux, le ciel, c'est la couche d'ozone. Ce sont des gaz que tu n'imaginais pas. Les petits chapeaux, les petits manteaux, la petite auto, les petits cafés chauds. Alors j'accélérais le pas. J'ai regardé derrière moi, j'ai dit cours le vieux monde est derrière toi. J'ai tout jeté, mes fringues, mes regrets, mes peurs. J'ai décidé de tout recommencer et d'aller le foncer. Vers cette nouvelle vie qui s'appelle aujourd'hui. Bonne aujourd'hui.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette pouette la hurlette, tagada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Justine Martin, bonjour.
Bonjour.
Justine, vous savez que vous occupez l'espace Thierry Paret?
Oui, je sais.
C'est un espace qu'il a personnalisé lui-même. Il y a tout son petit rituel. Il y a des plumes, il y a des autres poules, il fait ses petits machins, je ne veux même pas savoir. Justine, merci, parce que Thierry, en ce moment, est en déplacement, puisqu'il se présente, je ne sais plus dans quelle circonscription.
La Meuse ?
Dans la Meuse. On vous dira pour quelle étiquette. On parlera de vous juste après, chère Justine. Le journal de 7h.
Renforcer le partenariat entre la France et la Russie, c'est la ligne directrice qui ressort du premier entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État étaient réunis hier à Versailles pour évoquer plusieurs dossiers. Droits de l'homme en Tchétchénie et en Russie, Syrie, lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron a notamment insisté sur une ligne rouge à ne pas franchir en Syrie, l'utilisation d'armes chimiques. Et il s'est prononcé en faveur d'une transition démocratique dans le pays. De son côté, le président russe a souhaité rappeler les points de rapprochement tels que des relations économiques croissantes entre les deux pays. François Baroin prône le désistement en cas de victoire du Front National au premier tour des législatives. Les gaullistes sont les adversaires historiques du FN et de l'extrême droite, a notamment déclaré le chef de file des Républicains, avant d'ajouter qu'il souhaitait que la réciproque soit vraie du côté d'En Marche comme du Parti Socialiste. 19 eurodéputés visés par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour abus de confiance, c'est ce qu'a révélé Le Parisien hier soir. L'enquête qui vise notamment Marielle de Sarnez, ancienne eurodéputée et actuelle ministre chargée des Affaires étrangères, a été ouverte suite à une lettre envoyée par la députée Front National Sophie Montel. 59 morts en 59 jours de manifestations au Venezuela, c'est le dernier bilan de l'opposition conservatrice qui défile tous les jours contre le président Nicolas Maduro depuis 2 mois. Le président vénézuélien dénonce pour sa part un complot du gouvernement américain et maintient son projet d'une nouvelle constitution. Du théâtre pour finir, meilleur auteur francophone, meilleur metteur en scène, meilleur spectacle dans le spectacle privé. En tout, la pièce Edmond, écrite par Alexis Michalik, a remporté 5 Molières hier soir lors de la 29e nuit des Molières qui se tenait aux Folies Bergères. Et puis la météo, un temps nuageux sur l'ensemble de la France, aujourd'hui avec plus de soleil pour la Corse et la côte atlantique. Les températures seront moins élevées que ces derniers jours, mais resteront chaudes. 22 degrés à Paris, 25 à Marseille, 20 à Rennes et 18 à Lille.
Merci Justine Martin pour ce premier journal de la journée. François Rollin, vous êtes aperçu comme moi que, bien sûr, Justine Martin n'est pas Thierry Paret, c'est deux personnes très différentes. Par exemple, ils peuvent être dans la même pièce.
Je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Hein,
non. Et en plus, Justine, vous avez fait une chose que j'ai trouvée assez gracieuse et qui vous avez fait le journal debout. Je crois que c'est une façon de vous comporter,
enfin,
vos
c'est
actualités.
Pas, c'est pas Thierry Paret qui restera debout.
C'est pas Thierry Paret, c'est pas pour dire du mal des absents, mais enfin si.
Hein bon. Faisait le journal debout, c'est peut-être un détail pour vous, oui, mais pour moi, je veux dire beaucoup. Bah, voilà.
Thierry Paret, il vient, il pose ses grosses fesses dans son fauteuil.
Non, c'est dommage de le dire comme ça.
Mais c'est un petit peu ça quand même. Thierry, si tu nous entends, sans méchanceté, en toute amitié.
Et puis alors sur le tard, de temps en temps, je ne comprenais plus.
parce qu'il avait, il avait touché ce dentier. Oui, qui fait qu'il y a beaucoup de consonnes qui échappaient complètement à son élocution.
Oui, oui. Non, Justine est un renouveau.
Justine, c'est pas pour dire du bien de vous, c'est pas parce que vous êtes là.
Non, non, non.
Mais il se trouve que moi, il y a des D, des T que j'embrouillais incroyablement dans le journal de Thierry Paré.
De toute façon, moi, je ne l'écoutais plus depuis quoi 3 ans, 4
ans. Moi, j'écoutais, mais je ne comprenais pas.
Oui, voilà. Puis, voilà. Et des objets qui ont disparu.
Non, mais
aussi.
Vous mettiez des Walkman pendant ce temps-là, vous écoutiez. La... C'est vrai qu'il manque des choses.
Oui, c'est vrai, il y a de la fauche.
On va compter ce qu'on a dans nos poches, à tout de suite.
Merci.
Ah oui, pas mon vieux, vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer, vous êtes remonté sur tout.
Au moment où j'ai fait de la délation.
Tout vous énerve ce matin, Ahmed. Moi, je ne peux pas m'occuper, si vous voulez, je ne peux pas prendre en compte tous ces problèmes personnels. Vous devez les laisser dans un petit placard avant d'arriver ici. Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Bonjour François.
Bonjour.
Voilà, vous voyez, Ahmed. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et tout ce qu'on a sur l'estomac, eh ben, on le garde pour soi.
Bien entendu.
Pourtant, vous en avez, vous.
Vous en avez. J'ai lu votre livre, Gros sur la patate. Non,
c'est dans mon livre, mais ici, il n'y a pas de place pour ça.
Et si je vous invitais pour Gros sur la patate, le livre de François Rollin, vous en parleriez?
Je ne viendrai pas. Ça reste dans le livre.
Dans Gros sur la patate que j'ai devant moi, il y a le premier chapitre, c'est les politicards. Le deuxième, les pseudo-artistes. Et le troisième, c'est ceux qu'on appelle les scientifiques. Et là, ça dénonce des noms des adresses.
Je vous laisse la responsabilité de lire les bonnes feuilles de ce livre.
Gros mais sur la patate,
ici, moi,
par François Rollin.
Non. Moi, ici, je suis chroniqueur, je suis un confrère de Marie Misset, je ne suis pas le François Rollin, auteur
d'accord,
de Gros
François,
sur la patate.
Et pourtant, Gros sur la patate, vous en avez, Gros sur la patate. Oui. Parce que je rappelle que ce livre, c'est principalement des noms de gens que vous n'aimez pas, avec leur adresse et le code de l'immeuble. Où voulez-vous en venir?
Vous savez, le code de l'immeuble, ça change très vite.
Oui, enfin, c'est très bizarre comme idée de donner un livre de gens tout en rappelant leurs méfaits et de donner leur adresse. Je trouve que ce sont des méthodes étranges. Voilà.
Écoutez, les adresses n'appartiennent à personne. Hein. Le 23 rue Pierre Brossolette à Argenteuil n'appartient pas.
À l'artiste que vous citez. Et vous appelez au cassage de gueule, d'ailleurs.
Monsieur Guy Carlier, qui vit aux frais du service public, Grand Train, qui mène Grand Train, qui a une espèce de Mercedes
un livre engagé, un livre qui fait mal à ceux qui sont cités dedans. Alors, qu'est-ce que vous avez tiré de la presse ce matin, les connoisseurs?
Ben, commençons par les dames.
La dame.
Oui, Marie.
C'est moi,
bonjour.
La dame. Bonjour. J'ai trouvé un truc super. C'est une pleine page dans
alors,
la
croix. Alors,
laissez-nous
peut-être en juger.
Okay,
si vous ça me rappelle les gens qui je vais te raconter une très drôle.
Non mais moi ça m'a plu, voilà. Je peux dire.
Et le petit générique, non des fois,
il était dedans, vous n'avez pas votre casque.
Parce que
il était
pas
là,
ton
mon
casque.
Vieux, t'es pas du tout dedans, mes mains.
Il n'est pas dedans. Double page sur la médiation animale. On nous explique que dans les hôpitaux psychiatriques, les animaux font énormément de bien. Il cite par exemple l'exemple d'un homme qui a eu un épisode de décompensation pendant la guerre en Serbie, qui avalait des métaux pour fortifier son corps, qui se battait beaucoup à l'hôpital psychiatrique et qui, depuis qu'on lui a confié un chien, va beaucoup mieux, va mieux au point qu'il peut sortir de l'hôpital, etc. Et donc, il y a l'homme qui s'en occupe, l'infirmier qui fait de la cynothérapie, donc la thérapie par le chien, qui explique qu'au début, on se foutait un peu de lui, on disait « Ah, d'accord, l'hôpital va pas si mal si on peut payer des gens à promener des chiens. » Depuis, il y a 52 psychiatres qui font appel à lui à peu près, et il dit qu'on n'explique pas encore scientifiquement comment ça se fait que quelqu'un qui, par exemple, est incapable de se rappeler des membres de sa famille peut, par contre, se rappeler d'un chien, de son nom, et s'en occuper très très bien. Et il y a eu des expériences en milieu carcéral qui ont été très positives aussi, avec des chevaux, par exemple, à Arles, qui ont permis de pacifier vraiment à la centrale de Arles les relations entre gardiens et détenus. Il y a aussi, on s'est rendu compte que l'animal, c'est le seul truc qui peut sortir un enfant de son addiction à l'écran. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Et ça m'a rappelé très fortement ce gros livre, enfin, ce livre un peu mythique de Kadic, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, où il n'y a plus d'animaux vivants et où le rêve du héros, c'est de posséder un vrai mouton au lieu d'un mouton électrique pour pouvoir un peu avoir quelque chose de vivant, pouvoir exercer un peu d'empathie pour de vrai.
Alors, on n'a pas le droit de dire du mal des animaux, hein, même si on en pense.
Même
en revanche,
on
peut dire du mal de certains animaux. On peut dire tel animal qui appartient à tel copain est vraiment un con.
Ben, je m'en prive pas chaque mardi. Hein.
Vous avez un ami. À vous, vous présentez un animal chaque mardi, l'animal du mardi, François. Il y a un parti des animaux qui présente 125
candidats.
Oui,
spéciste.
Spéciste, oui. Vous êtes candidat pour ce parti, Armel, non personne de.
Moi, je trouve ça très drôle parce qu'il y a des affiches électorales et là, vous avez des têtes électorales et vous avez des chats d'un coup pour l'animalerie ou des chiens à la place des candidats. Je trouve que c'est des affiches de ce parti-là.
Ce n'est pas le chat qui se présente lui-même.
Oui, mais c'est pour dire
d'accord.
On est pour les chats et tout.
Soyons
mais
très, très précis.
Le chat remplace le candidat sur l'affiche.
Qui est maire en Alaska.
Ah il y a bon un chien qui est maire en Alaska.
Et il y a
aussi une chienne donc.
Un chien. Un chien.
Amer, A-I, bah dites-le, hein. On est à la radio, ça ne se lit pas comme ça. Hein.
Si, ça se lit.
Comment pas ce que vous dites?
Il est maire comme une maman.
Mais non, puisqu'on parle de politique, enfin.
On est dans la politique.
Vous êtes plus là, vous êtes comme Thierry Paré, bientôt la maison de retraite.
Nous avons tous une mère en politique aussi. Bon allez, dites voir, puisque non, on continue sur les animaux, donc je signale à nos auditeurs, assez sévèrement, la page 5 du supplément Économie et Entreprise du Monde, qui nous dit que la filière foie gras redémarre dans le sud-ouest, et nous le dit avec une photo. Et voyez bien cette photo, bon, vous ne l'imaginez pas, mais je vais vous dire, le foie gras, je trouve ça très bon, et la photo, c'est très moche. Et je voudrais ce matin adresser un mot d'encouragement à tous ceux qui sont très bons, mais pas beaux, ou tous ceux qui sont très beaux, mais pas bons. Ça fait de la totalité de l'univers.
D'accord, vous ne parlez pas des foie gras en particulier, pas des êtres humains qui ont un foie normal ou un foie gras.
Oui, voilà.
Leurs abats. Et quand on parle de beauté intérieure, on ne parle pas forcément de la beauté de l'intestin de quelqu'un.
Non, mais le foie gras, il n'a que ça à nous présenter. C'est-à-dire que quand je vous apporte un foie gras à la maison, ce qui m'arrive souvent au milieu de la nuit.
C'est vrai.
Edouard,
vous savez, qu'est-ce que c'est, 3h du matin, qu'est-ce qu'il y a?
Un foie gras frais. Eh bien, vous voyez que le foie gras n'a rien d'autre à vous offrir que son goût et son apparence.
Alors,
son apparence est repoussante, mais son goût ne l'est pas. Vous me suivez?
Oui, il est repoussant quand vous le sortez du canard. Mais le foie gras, tant qu'il reste dans son canard, vous pourriez m'offrir le canard et je rentrerai la main dans le canard et je sortirai le foie. Et là, on serait dans la grâce, la beauté.
Eh bien, je vous dis à la nuit prochaine.
Et la réconciliation et courrier d'auditeur à la clé. À tout de suite.
7h-9h, Edouard Baird. Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Qui a mis ce morceau?
C'est pas moi, je ne sais pas.
Bien, c'est bien.
Si, c'est moi. Mais...
Ah bah vous attendez que je vous dise que c'est bien pour dire que c'est vous.
Michel Mercier, la fille qui fait
courageux.
Ah, Michel Mercier.
Michel Mercier, Jean Rochefort n'en dit pas grand bien.
Ouais,
il dit quand Angélique Marquis des Anges, il s'entend pas. Bon, j'aime pas me faire des petites histoires. À propos de petits ragots, Atmen.
Oui.
Vous avez regardé les Molières?
Oui, j'étais en bas de chez moi, il y avait des camions régis partout, et voilà, dans le quartier des Folies Bergères. Donc déjà, j'ai vu plein de gars au bistrot en train de picoler, dire c'est moi qui vais l'avoir. Et puis après, j'irai de la cérémonie. Bon, bah, si en France, il n'y a que le français et Michalik, on va vite se faire chier, parce qu'il y avait plein d'autres spectacles, comme celui de Yégel, comme Bire, qui a eu des petits trucs. Il y a eu quelques bits, moi, qui m'ont un peu. C'était un peu dur, quand même, de voir Las Palès et Salomon avec ce mauvais sketch. J'ai trouvé que Manu Payet, il n'avait pas non plus un joli sketch. Il y avait eu des choses très, très bien en sketch fait par Blanche Gardin, qui était très, très drôle. Elle expliquait. Comment elle avait fait du théâtre et qu'elle avait eu des attouchements, mais c'était fait avec beaucoup de poésie. Ça m'a bien fait rire. Non, on m'a expliqué que le boulanger n'était pas forcément un artiste comme un homme de théâtre. Non, mais c'était bien tourné. Très beau discours de Isabelle Huppert, qui rendait hommage à j'ai pas le nom d'un artiste russe qui était.
Oui, alors si vous avez oublié à qui était rendu l'hommage.
Non, l'hommage était rendu à Isabelle Huppert par un discours d'Ivo Voronov magnifique sur elle. Elle n'a pas voulu prendre le Molière comme un truc d'honneur final. Elle a pris ce Molière comme une étape en disant qu'elle était toujours tournée vers l'avenir. C'était magnifique. Et derrière, elle a rendu hommage à un type qui était persécuté par Poutine. Et elle lui a dit « Poutine, t'es encore là? Tu es resté en France ?»
Mais Atmen, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, Armel Héliot du Figaro m'a dit en sortant « Oui, il rend hommage à ce type, mais en fait, il est juste l'objet d'une enquête parce qu'il a soutiré 200 millions de roubles au théâtre qu'il dirige.
Ouais. » Elle ne s'était pas vendue comme ça, en tout cas, elle.
Elle
nous en a fait. Si vous avez le plus en plus des Molières, là, on est les gâtés.
Mais est-ce que ça donne envie après d'aller dans les salles? C'est à ça que ça sert?
Non, moi, ça n'a pas.
Vous avez eu envie d'aller au théâtre après? Vous avez envie de
Non, parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de choses pour Edmond, moi. Je trouvais que ça, c'était un peu trop, parce que c'est une espèce de. On a le texte de ce que j'en ai. Moi, je n'ai pas vu Edmond, je le dis. Mais
c'est une pièce qui se joue à Paris en ce moment au Théâtre
Voilà, mais Christophe Péné, nous en avait beaucoup parlé.
Les gens disent bien qu'il est sur Edmond Rostand.
Oui, voilà, mais c'est un Edmond in love. Voilà, on prend la genèse de comment il fait Cyrano de Bergerac. Donc, à l'intérieur du spectacle, il y aura toujours les belles phrases de Cyrano. Ouais. Mais je trouve qu'il y avait une mise en scène de Catherine Yégel sur les femmes servantes que moi j'avais vu qui était magnifique. Je parle en mise en scène, hein. C'était vraiment au ciseau. Où Bakri était formidable, Evelyne Buil était formidable dedans, ils ont été eux récompensés. Il y avait des trucs très très beaux.
Vous avez vu des visages qui vous étaient contents de
revoir.
Voilà. Et
puis... Le discours de Colbert était très très beau pour moi, parce qu'il était très très. Il était nickel, sans anicroche. Il rendait hommage à Mouchkine qui n'était pas récompensé là justement, qui n'avait pas été invité. Et alors il l'a bien salué, il a bien cité que s'il avait été là, il aurait tout raflé. Donc il a refait une balance entre le théâtre public et le théâtre privé, comme d'habitude, le vrai combat.
Vous avez fait quoi hier soir, François Rollin?
Ben moi hier.
Qu'à la maison?
Non, j'étais là-bas dans la salle.
Ah, vous y êtes allé aussi, d'accord.
Bah, pour la première fois de ma vie où j'étais invité à cette manifestation qui me méprise totalement depuis 30 ans.
Ça y est, on y va.
Ça y est,
bah, je ne peux pas dire autre chose. Edouard, oui. Disons les choses quand même très clairement. Je n'ai jamais été ni invité, ni mentionné. On ne m'a pas proposé de remettre quoi que ce soit.
Un sandwich, souvent.
Non, on ne m'a rien proposé, jamais. Donc, je ne peux pas être très excité.
Non, il fait le modeste parce que Vincent de Dienne a dit que c'était un génie quand même. Dans la salle, il a dit, et je salue François Rollin qui est un génie, les gens applaudissent.
Excusez-moi, il n'est pas facile à vivre, votre génie.
Non, il n'est pas facile à vivre.
Vous êtes rigolo. C'est pas par hasard que j'arrête ce métier, c'est parce qu'effectivement, je n'en vis pas.
Vous arrêtez ce métier.
Oui, j'arrête ce métier. J'arrête les spectacles. Je ne vais plus faire. Je n'en vis pas. Voilà, je n'en vis pas mon dernier spectacle. Le gros tourneur qui s'est retroussé les manches, on a vendu 4 dates à 3000 balles. Voilà, pendant que le comte de Boudherbala en vendait 75 à 23 000 balles.
Il faut changer de tourneur.
Mais non, il ne faut pas changer de tourneur. J'ai le meilleur tourneur de Paris. J'ai le meilleur tourneur de Paris. Non, il faut changer de profession. C'est ce que je suis en train de faire.
Mais ne dites pas ça.
Il n'en est pas question.
Il va y avoir un François Rollin tour. Vous allez rester
François,
là.
Vous allez bien voir.
Les gens vous aiment à tout de suite.
Sûrement.
Moi, en tout cas. On va partir. François, la radio, ça vous allez continuer avec nous.
Oui, ça se pourrait.
Bon, ça fait plaisir. On part dans la rue avec Vexou.
Et on descend. Voilà, on va accrocher nos cordes là-haut et puis s'amarrer, mettre notre baudrier et descendre sur les façades pour vous réparer ce qu'il y a à réparer sur les façades. Vous êtes les GIGN urbains, quoi.
Exactement ça.
Bonjour.
Bonjour.
On est avec Mickaël, c'est ça, Mickaël ? Mickaël, je les ai arrêtés. Ils sont trois garçons dans la rue en t-shirt noir. Avec marqué gratte-ciel sur leur t-shirt, un t-shirt, c'est quoi? C'est un gratte-ciel des années 30?
C'est ça, à peu près, ouais.
New-Yorkais?
New-Yorkais, exactement.
Mais on n'est pas New York, là?
Pas du tout. Ça, faut voir ça avec le directeur. Hein,
c'est lui qui a fait le...
Lui qui a fait le logo.
D'accord, sur le logo, mais sur l'endroit où on est, ça, on peut se le dire entre nous, ça.
oui, tout
on
n'a
pas besoin de la direction pour savoir qu'on est à Paname. Dites-moi, alors, vous faites partie de ces fameux métiers étonnants où, sans vertige, vous gravissez les immeubles, les buildings, les arbres pour nettoyer, réparer, construire?
Exactement, c'est tout à fait ça. Alpiniste urbain, travaux d'accès difficiles.
Alors, c'est très étonnant, ça. Donc, ça va de l'élagage des arbres?
Non, nous, on ne fait pas l'élagage des arbres.
Merci, ça compte. Vous ne pouvez pas me dire oui pour faire semblant.
Est-ce que vous changez les ampoules des lampadaires?
On peut être amené à faire ça aussi, oui.
Ah bon? Vous êtes les fameux mecs qu'on voit dans les films quand il y a une dame qui se déshabille chez elle au 40e étage. On voit un mec passer devant qui nettoie la vitre, c'est vous?
C'est ça, c'est nous.
Ah, c'est des beaux métiers.
Qui surprend les gens en train de faire l'amour dans leur chambre, c'est nous.
Alors c'est les fameux qu'on a sur vos métiers. Donc vous partez des sommets, vous partez des toits, des immeubles?
Oui, on part de tout en haut et pour arriver au point où on veut aller. Quoi.
Et vous descendez en quoi alors? Vous descendez en rappel? Vous descendez comment?
On descend en rappel, oui, tout à fait.
C'est une chèvre que vous mettez en haut?
Non, c'est une corde et on a un descendeur pour pouvoir descendre sur les façades d'immeubles.
Et alors c'est vrai qu'on voit plein de petites scènes un peu insolites ou...
Il ne veut plus en parler.
Si, mais ça a coupé du coup.
Ah non, je me demandais si vous voyez des petites scènes insolites quand vous passiez devant les vitres.
Ah, et ben on peut, oui, effectivement, voir des petites scènes insolites. Oui, surtout de ce temps-là, c'est bien.
Donc les gens sont beaucoup chez eux, vous engagez des conversations, vous invitez à prendre le café, à boire un coup?
On nous invite à prendre le café, ouais, c'est de plus en plus rare, mais ça arrive encore.
Est-ce que vous avez libéré des gens? Vous êtes retrouvé dans des appartements avec des gens attachés?
Non, pas encore. Est-ce que vous rentrez par les fenêtres? On ne rentre pas par effraction dans les appartements non plus. Ouais, je sais, c'est ouvert. Mais justement, il y a plein qui ont peur de ça. Hein, et...
Vous faites les monuments aussi?
On fait les monuments, tout à fait.
Quel monument vous préférez?
Les monuments, il y a le Louvre. Ils ont été sur le Louvre il n'y a pas longtemps, les collègues, là. Il y en a plein.
Est-ce que sur certains immeubles, vous dites « Oh non, ça, j'y vais pas ». Par exemple, s'il n'y a qu'un étage, un rez-de-chaussée, vous dites « C'est pas pour moi ». Est-ce que la noblesse du métier, c'est d'aller très haut?
Oui, tout ce qui peut être fait à la nacelle, c'est pas pour nous, quoi.
D'accord.
Et pardon d'être un peu terre-à-terre, mais est-ce que ça gagne bien comme métier?
C'est pas trop mal, on s'en sort bien.
D'accord.
Qu'est-ce que tu veux changer de métier? Tu veux faire ça?
Ouais, ça me tente.
C'est-à-dire, on peut en savoir un petit peu plus? Sur le... Combien? Ça dépend, ça varie entre 2 et 3 000 euros.
Je les note. Je note.
Alors, il faut un bon tourneur.
C'est dangereux?
C'est dangereux,
oui, tout métier est dangereux. Hein, nous,
alors le mien, c'est assez tranquille.
Moi, j'ai une question sur les paratonnerres qu'il y a sur les églises, les trucs très, 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 très hauts, les choses à changer qui sont très hautes sur les dômes, un petit peu comme ça. C'est compliqué pour grimper sur un dôme, non? Ouais, c'est assez compliqué, ouais. Il faut, oui, c'est plus compliqué parce que là, il faut s'accrocher au fur et à mesure qu'on avance. Donc, soit des tuiles, soit enlever du zinc pour pouvoir s'accrocher. C'est assez compliqué. Ouais. Des tuiles, on s'accroche sur le bois? Sur la charpente en dessous, ouais.
Vous avez des écouteurs et de la musique? Vous vous parlez entre vous? Vous faites quoi là-haut?
Ouais, on a des haut-parleurs, on a des enceintes pour mettre de la musique. On travaille à deux tout le temps, donc on est obligé de travailler en binôme.
Qu'est-ce que vous conseillez en haut de la tour Montparnasse comme musique?
Ah, tour Montparnasse, malheureusement, on n'y va pas parce qu'elle est équipée de nacelles sur câble.
Vous avez des grands souvenirs de hauteur avec des belles musiques?
Non.
Non.
Malheureusement, non. Non.
Bon, bah...
C'est le non-non.
Non.
Non, mais je regarde les collègues.
Mais vous avez des bons souvenirs? Vous avez des bons souvenirs tout court?
Bien sûr, j'ai des bons souvenirs tous les jours. Je prends des souvenirs tous les jours. Tous les jours, je profite de ce métier qui est formidable.
Merci, monsieur. Je vous souhaite.
Excusez-moi, sur le camion, là, les collègues qui viennent nous chercher, il y a marqué travaux d'accès difficile. Tout ça, c'est quand même pour rendre la chose un peu plus payante ou parce que c'est pas si compliqué finalement. Bah, c'est pas si compliqué, non. Mais il faut quand même aller dans les endroits difficiles, quoi. Les endroits qui sont pas accessibles à la nacelle ni à l'échafaudage.
Merci, monsieur. Merci, Jack. Merci à tous. Vous cherchez à sauver. Vous cherchez à me sauver, mais j'ai raté, j'ai loupé. Malgré l'aide de Jack Souvent, malgré la bonne volonté de monsieur, les questions étaient inappropriées. Des à peu près, des erreurs, des approximations. Interview ratée, moment approximatif. Nullité des demandes, questionnement nul. Mauvaise relance, timidité, arrogance, ce mélange de tout ça.
Le débrief n'est pas meilleur, d'ailleurs.
Non, mais je tiens à dire que la musique est bien parce que. C'est la musique de peur sur la ville. Belmondo descendait en rappel.
La musique est bien. Et puis les copains qui soutiennent.
Belmondo descendait en rappel une tour sur cette musique.
Tonto François et Cousin Atmel qui sont bien en soutien.
On a un bon tourneur.
Avec des amis comme
tourneur.
Vous, je n'ai pas besoin d'ennemis.
Comment ça, on peut mourir en 10 minutes?
On a 2 minutes de retard pour le journal, ça va pas, non? À tout de suite.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cote-cote-cote. Tous les animaux de la ferme sont là. Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Justine, il est 7h33. Que nous proposez-vous?
Un rappel des titres en commençant par un dialogue musclé hier mais ouvert entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron qui se rencontraient à Versailles pour la première fois. Un entretien qui annonce un partenariat renforcé entre la France et la Russie. Pas de nini aux élections législatives cette année pour le parti des Républicains. Le chef de file François Baroin a annoncé hier un désistement de ses candidats en cas d'une victoire FN au premier tour des législatives le 11 juin prochain. 19 euros députés visés par une enquête préliminaire pour abus de confiance. L'enquête ouverte par le parquet de Paris à la suite d'une lettre de la députée européenne Front National Sophie Montel vise notamment Marielle de Sarnez, actuelle ministre des Affaires européennes. 59 morts en 59 jours de manifestation au Venezuela. C'est le bilan de l'opposition conservatrice qui défile depuis 2 mois contre le projet de constitution de Nicolas Maduro. 5 Molières pour Edmond, la pièce d'Alexis Michalik. La cérémonie qui se déroulait aux Folies Bergères a notamment attribué à Isabelle Huppert un Molière d'honneur pour sa carrière théâtrale. Et puis la météo rapidement, un temps nuageux sur l'ensemble de la France aujourd'hui, moins de soleil et un peu moins de chaleur aussi. Les températures s'élèveront de 18 à Lille à 25 à Marseille, avec 20 pour Rennes et 22 degrés pour Paris.
Merci beaucoup pour cette précision formidable dans la météo. J'adorais Jack Souvent, mais jamais j'ai entendu un 20-22 sur Rennes dit comme ça, je le dis. François.
Mais pourquoi Jack Souvent?
Je parlais de Thierry Paré.
Ah, c'est ça,
c'est
voilà.
Comme ça que j'appelle Thierry Paré, c'est Jack Souvent.
Oui, tout à fait.
Voilà. François, vous avez un petit animal pour ce mardi?
Oui,
ça
oui,
vous ferait plaisir d'avoir un générique?
Eh bien, ouais, je l'aime bien, mon générique, on s'y attache.
Vous l'aurez.
Ah. Non. Je peux chanter sur le générique,
oui,
mais ça ne se fait pas.
Aussi.
C'est peut-être de la radio de grand-papa. Alors, ce matin, je vais vous parler de la gerbille. La gerbille, l'animal, et non pas la gerbille, le nom commun, qui revient si souvent dans la conversation d'Edouard Baird, selon l'énoncé que voici, je le cite de mémoire, Oh là là, je sais pas si c'est les huîtres ou le vin blanc, mais j'ai eu la gerbille toute la nuit.
Ah bon,
non, la gerbille, ah, l'animal.
Ah bon, d'accord, je ne me rappelle pas.
Donc, la gerbille qui est un petit rongeur de la famille des Muridés. Dans la famille des Muridés, il y a André Muridé, le papa, Jacqueline Muridé, la maman, Germaine Muridé, la vieille tante, et donc la fille, gerbille Muridé. La gerbille est particulièrement gâtée par la nature, car elle a de très nombreux prédateurs. Pour simplifier, disons que tout ce qui est plus gros que la gerbille, c'est-à-dire la totalité des mammifères et des oiseaux, est potentiellement un prédateur de la gerbille, laquelle est végétarienne, ce qui ne lui laisse aucune chance de se venger, même si elle fait de la muscu. On peut domestiquer la gerbille, et dans ce cas, il faut savoir, c'est important, que la gerbille est un animal social, elle n'aime pas la solitude, votre gerbille sera donc bien plus heureuse si vous lui adjoignez quelques congénères, deux ou trois par exemple. A contrario, il est déconseillé de regrouper les gerbilles dans une cage par groupe de 500 parce que celles du dessus risquent, malgré leur petit gabarit, d'écraser celles de la couche du bas. Il faut enfin savoir que la gerbille de garde est un concept très sympa, mais qui, selon des sources préfectorales, ne dissuade que très faiblement les cambrioles.
Merci infiniment, François. Pour la phrase que je suis censé avoir prononcée, je me rappelle.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baer.
Je passe une matinée, mon Dieu. 7h-9h, plus près de toi.
Alors, Hervé Di Rosa, le Musée international des arts modestes, il est à 7. Vous êtes né à 7, mais entre-temps, vous en avez vu du pays.
Oui, mais heureusement, je suis parti. Oui,
mais c'est un truc de voyager puis d'aller faire une semaine de vacances. C'est un truc de votre vie à vous, c'est vraiment un truc incroyable. On fait les villes. Vous êtes parti de cette partie. Première destination pour vivre, c'était
Paris.
Quoi
Paris. Ça, c'était le rêve. Je suis rentré aux arts décoratifs à Paris. J'avais 18 ans, donc c'était en 78. Ça fait un bon moment.
C'était quoi l'ambiance là? Quel souvenir de 78
à Paris? C'était la fin du punk, donc le Palace, tout ça. Un peu déçu par. La brachitude parisienne, parce que quand on est du sud avec l'accent et tout ça, on est un peu pris pour des imbéciles. Et c'est là où je me suis aperçu que finalement, j'ai pris des cours mais je dois être un mauvais professeur, comme tu peux le remarquer, je n'y suis pas arrivé. Et j'en ai fait en fait une spécificité finalement. Et puis on a fait une espèce de petit groupe aux Arts Déco avec François Boiron, Robert Combas, etc. Et puis on a commencé à exposer.
Oui, mais sur la langue quand même, tu dis qu'on se moquait de ton accent peut-être, mais tu as appris un truc, ou je ne sais pas si c'est un truc de mousquetaire, mais tu as le verbe quand même, il ne faut pas t'en.
Et ouais, parce que tu sais,
rétorques bien, quoi.
On se connaît depuis longtemps, toi aussi, tu l'as mieux que moi, tu en as fait ton métier. Moi, c'est pas mon métier, mais tu sais, il faut que, quand on vient de là où on vient et qu'on est un peu seul, parce que les artistes de milieu, dirions-nous, ouvriers, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas au début des années 80, il n'y en avait pas, et quand tu parlais de bande dessinée, de rock ou de culture populaire, on te regardait avec des yeux énormes, alors qu'aujourd'hui, il y a Patti Smith qui fait la couverture d'Art Press, tu vois, les temps ont changé, donc le verbe était obligatoire pour se défendre. Surtout devant un mur d'art conceptuel, minimal, support surface et tout ça, il faut savoir qu'à la fin des années 70, on n'avait quasiment pas d'image. À part un peu la figuration narrative, mais c'était un peu d'après photo, etc. Avec notre ami Jean-Paul Chambaz, Ran Siak, etc.
Et toi, tu défendais déjà à l'époque contre le conceptuel ou contre l'art classique, ce truc que tu as appelé art modeste, je ne sais pas à quelle époque, mais qui mélangeait les arts populaires, la contre-culture et tout ça.
Disons, c'était un autre point de vue, comme le MIAM d'ailleurs, le Musée international des arts modestes qui a ouvert à 17 ans. Tu sais, moi je ne vais pas contre l'art conceptuel ou l'art minimal, je m'en fous, ça existe historiquement. Malheureusement, en France, en Europe, on est un peu focalisé là-dessus et les institutions sont un peu monomaniaques de ce genre d'expression. Mais ça n'enlève pas qu'il y a de grands artistes, on ne va pas critiquer Donald Judd ou Daniel Buren, en fait, tu vois, ça aurait pas de sens. Mais par contre, on peut avoir d'autres positions. Et en 78-79, on avait d'autres positions, j'avais d'autres positions, quoi.
Donc là, on est à Paris. Les écoles, tu apprends ton métier, tu rencontres toute une bande, ensuite tu pars pour où alors?
Après je pars à New York bien sûr, puisque c'était vraiment le rêve, c'était pas l'Afrique tout ça le rêve à 7, dans les années 70, c'était New York, beaucoup plus que Londres et tout ça qui nous semblait un peu surfait. D'ailleurs moi j'ai toujours été un fan de punk américain, j'étais plutôt Cramps, Richard Hell et tout ça, plutôt que les Sex Pistols finalement, et les Clash, enfin les trucs un peu pseudo-politicos, là ça me branchait pas trop. Et donc j'arrive à New York, et bien sûr, j'arrive en 82 à New York, je m'y installe pour 3-4 ans. Et voilà, c'est
t'avais encore toute une scène underground de Lower East Side, tout ça.
Oui, j'habite dans le East Village et puis surtout, je travaille avec la même galerie que Keith Haring, que Kenny Scharf, que Basquiat, puis je les rencontre.
T'as Basquiat qui est encore vivante.
Oui, Keith Haring surtout. Oui. Avec qui Basquiat, c'est un peu difficile de lier amitié, c'est un petit peu un peu particulier. Mais Keith Haring, c'est un type assez formidable qui m'a laissé des grands souvenirs. On a d'ailleurs organisé en 1981 une exposition avec les artistes français, les artistes américains. au musée d'art moderne à la ville de Paris, mais malheureusement, il n'y a jamais eu la réciproque aux États-Unis. Ils devaient le faire, et puis ils ne l'ont pas fait, parce que les Français, tu le sais, c'est comme un cinéma. C'est comme un art contemporain, c'est comme au cinéma, les Français. On est un peu considérés un peu sous.
Les gens de 7 à Paris, c'est comme les Français aux États-Unis. Quoi. Voilà. Chaque fois, tu es le provincial.
Surtout les artistes, surtout au niveau art contemporain, parce que par exemple, au niveau musique, les Français ont fait un truc énorme aux États-Unis. Hein, ça, alors que nous, le rock, rappelle-toi, en 80, le rock français, je ne veux pas dire de nom. On n'écoutait pas trop, quoi. Hein. On n'était pas trop...
pas téléphone.
Je ne veux pas dire du mal de personne. Mais
alors,
bon.
Après New York, il y a quoi après ?
Et après, en fait, à ce moment-là, j'ai un mari, j'ai mon premier enfant en 86, et je reviens habiter à Sète, figure-toi. Donc, c'est une espèce de retour aux sources. Jusqu'en 93, où là, je décide de partir sur le continent africain, en Amérique latine, au Vietnam, etc. Où, en fait, moi, je déteste voyager en tant que touriste. J'ai un ami à moi qui disait, il y a trois grands fléaux du XXe siècle. Il y a eu le nazisme... Le fascisme, le communisme et le tourisme.
Des trucs en isme, de toute façon.
Et c'est vrai que c'est vrai que c'est un truc terrible, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à faire ça. Ma famille et mes enfants me l'ont beaucoup reproché.
Tu t'installes dans les pays, je
sais pas. Pas forcément. Alors, par exemple, au Mexique, je me suis installé 4 ans. Au Vietnam, j'y suis allé tous les mois, un mois non l'autre, pendant 4 ou 5 ans. Il y a des endroits comme ça. Au Ghana aussi, j'y suis allé chaque trimestre, j'y allais un mois, deux mois à Kumasi, en plein milieu du Ghana, avec le peintre d'enseigne Almighty God, avec qui j'ai appris.
Ça veut dire quoi l'inspiration, Hervé, quand tu vas dans les pays là-bas ?
Alors, c'est le contraire, tu sais, l'artiste voyageur, c'est un peu la tarte à la crème, là, et puis c'est déjà fait, tu as Delacroix, Paul Klee, tout ça, qui voyage, et donc qui dessine ce qu'il voit, là, les femmes en boubou, tout ça. C'est pas ce qui m'intéressait réellement, j'essayais de comprendre ce que j'essaie.
T'es pas un peintre des folklores locaux.
Voilà, non, ça m'intéresse. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est comment les images et les objets sont fabriqués, tu vois, voilà. Parce que je pense que les techniques qui sont à la portée des gens à ce moment-là, un moment précis, en Europe au XIIe siècle ou en Afrique dans les années 50, il y a, au Ghana en particulier, en Afrique de l'Ouest, il y a des matériaux qui se présentent, qui sont utilisés, et grâce à ces techniques, des images apparaissent, et ce n'est pas le contraire. Et donc, pour essayer de comprendre un peu l'esprit, dirions-nous, on va commencer à dire des mots ringards, comme partage, mestissage, tout ça, c'est vrai que ça semble un peu ringard en 2017, je crois, j'allais dire en 2007, tu vois. Mais c'est ça, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est essayer... En fait, les œuvres qui en résultent, c'est un peu des scories, l'intérêt, c'est comment j'arrive à lier une relation, par exemple, au Vietnam, à Binh Dieu, à côté de Ho Chi Minh City, avec le maître, l'acteur et toute sa famille, parce que c'est tout à fait... Tu vois, il parle même pas anglais ni rien, il mange pas pareil, il se déplace pas pareil. Enfin, il y a des gros gaps, des gros fossés entre les deux. Mais quand on travaille pendant 4-5 ans sur un projet commun, les choses, j'ai l'impression de mieux les connaître et qu'eux me connaissent mieux. Et
tu vas avoir des techniques, en fait.
Oui, des techniques et puis des gens qui les font. Là, depuis 15 ans, je travaille au Cameroun avec les artisans de Foumban, qui est une ville qui est à 4 heures au nord de Douala. C'est le pays Bamoun, c'est la capitale des Bamoun, c'est le seul palais en dur de toute l'Afrique, je crois presque toute l'Afrique subsaharienne, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de palais en dur. À Paris, il y a des mosquées, mais c'est tout comme monument, tu vois. Et là-bas, il y a des ateliers extraordinaires de bronze, de bois, de perles, et donc j'utilise tous ces micro-ateliers, mais tu vois, c'est pas du tout ni un projet humanitaire, ni un projet de travail avec l'autre, c'est j'utilise les savoir-faire des gens qui ont pignon sur rue, des artisans, tu vois, à qui jamais on a eu travail, c'est tout. De toute façon, si c'est pas moi, ce sera un autre, ils ont l'habitude de faire les mêmes statues, les mêmes colliers, les mêmes bracelets depuis qui vendent pour vivre. Et donc, je rentre dans ce cycle de fabriquer, de vendre, etc. Et je me sers comme un chef d'orchestre, il se sert de violon, d'instruments dont il ne sait pas jouer, tu vois.
Alors, c'est comment ? Attends, essayons d'imaginer, mais nous, une musique, on met ton casque, on arrive chez les Banoum, on est au Cameroun, tu es là, tu es en voiture, c'est toi qui conduis ou il y a une sorte de guide qui t'amène ? Il y a un guide qui t'amène, on traverse
quoi ? Ah, d'abord, on arrive à l'aéroport de Douala. Ça,
le
c'est
voilà,
terrible.
C'est lui. C'est le mec là qui a l'air un peu nerveux. Alors, il y a un mec qui vient de chercher.
Non,
là,
non,
il y a
déjà, j'ai mon, comment on appelle ça, mon Sherpa, Jean Cesser, tu vois, qui connaît l'Afrique.
Non, la première fois, t'arrives. Oui, donc c'est lui qui vient chercher.
Non, c'est lui. Il vient avec moi dans l'avion, on arrive.
Vous arrivez.
Il a réservé la voiture qui est pas là.
Vous arrivez, truc douane, moustique, bordel.
Ah oui, puis
truc,
tu sais comment c'est le bordel. Ouais. Et là, en fait, on reste pas à Douala, on prend un taxi. Je prends pas le bus parce qu'une fois, je l'ai pris le bus, j'ai failli mourir.
Taxi collectif ou les
petits
taxis ?
Non, les taxis que lui
que
et
vous
moi.
Deux.
Non, parce que au début, on prenait les taxis collectifs parce qu'on voulait voir ce que c'était la vraie vie en Afrique. Mais pour nous, Blan, c'est pas
la fausse vie, c'est bien aussi.
C'est pas conseillé, c'est pas conseillé. Et là, on se tape 4 ou 5 heures de route pour Foumban, alors qu'il y a même pas 200 km. Mais tu es arrêté systématiquement chaque 30 km, soit une fois par les gendarmes, soit une fois par la police locale, soit une fois par l'armée. Et chaque fois, le chauffeur, le pauvre, il faut qu'il donne quelque chose. Mmh. Et donc ça, ça t'arrête tout le long. Et c'est pour ça que ce qui est terrible, là, je fais un appel un peu, parce que Foumban, c'est une ville qui était très reconnue pour son artisanat, et des gens du monde entier venaient acheter là des copies, souvent des copies de vraies statues de toutes les ethnies de toute l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, personne n'y va, parce que c'est trop compliqué, c'est dangereux. C'est... Et donc les gens ferment les ateliers, n'ont plus de travail, et vont carrément, ils ferment leurs ateliers de bronze et vont cultiver le manioc pour pouvoir manger.
Alors c'est difficile.
Il y a des situations
entre,
difficiles
entre
comme
trop,
ça.
Tu disais le tourisme trop étant un fléau, où il y a trop de monde, où il n'y a personne. Quoi.
C'est voilà,
difficile
c'est
d'avoir
ça.
Un rapport juste quand on se balade.
Et quand il y a trop de monde, parfois c'est difficile de préserver certaines choses aussi. Bien que je suis un grand fan de l'art touristique qu'on peut acheter dans les aéroports, donc je suis un peu contradictoire comme tu vois.
Oui, mais ça c'est dans tes collections, c'est dans tes collections d'objets bizarres, d'objets populaires, d'objets modestes. Il y en a beaucoup au Miam, à ton musée international des arts modestes, à 7. Alors l'exposition qu'il y a là en ce moment, c'est sur toi ? Comment ça, il y a une expo,
ouais.
Tu t'es fait une exposition sur
ouais,
toi ?
Ouais, ne commence pas avec ça. C'est vrai que j'étais
attends,
pas...
Je ne commence pas avec ça. Tu sais, attention, parce que aussi le mec, c'est tu vrai, sais, vrai, la vrai, première vrai. Des prétentions, c'est de décréter qu'on est modeste. Tu sais, vous savez, moi qui suis modeste...
Alors... Mais tu sais, tu me connais depuis assez longtemps pour le savoir. Non, écoute, ça fait 16 ans, c'est mon conseil d'administration, qui sont une bande de bénévoles. Le Miam, c'est une association, en fait, qui a un accord avec la mairie de Sète pour faire les expositions dans ce lieu. Et donc, heureusement que j'ai une dizaine de bénévoles, on a des salariés bien sûr, etc., mais j'ai une dizaine de bénévoles au conseil d'administration avec qui on prend les décisions, tu vois. Et ils me disaient, oui, j'en ai marre, tout le temps, le Miam, il n'y a jamais d'œuvre de toi. Les gens, c'est vrai, parce que moi, le Miam, c'est l'œuvre, c'est le musée, c'est le travail qui s'y fait. Pas de mettre des peintures ou des sculptures de moi, je ne trouvais pas ça, que ça avait du sens. Mais comme il y avait cette exposition qui s'est tenue de octobre à janvier à la Maison Rouge, là, à côté d'ici, qui s'appelait Hervé Di Rosa et les Arts Modestes, on voulait profiter peut-être de la dynamique, parce que nous, on est à 7, quoi, quand même. Hein. Et heureusement qu'il y a des gens comme ce brave Rémi qui venait,
ouais.
Et qui chaque été faisait des trucs sur le Miam. On est quand même avec le TGV, ou comment ça s'appelle aujourd'hui, Inouï, on a dit que c'est Inouï aujourd'hui.
Inouï.
C'est Inouï d'aller à 7, tu vois, c'est loin, quoi. Quand
juillet,
même.
Ouais, c'est
donc, on a besoin de, tu vois, on a besoin de choses, de raccords avec Paris. Et Antoine de Galbert nous avait vraiment, il m'avait donné toute la Maison Rouge pour ça, ou dans la Maison Rouge, il n'y avait pas comme mon œuvre. Il y a aussi tout le travail qu'on fait au Miam depuis 16 ans. Et on a demandé, alors moi, je voulais pas faire une exposition. De moi. Alors, l'intérêt, c'était quoi ? De faire la liste des gens qui m'ont influencé ou que j'aime bien. Bon, ça, c'était un peu court. Donc, on a demandé à Julie Crène, qui est une commissaire d'exposition, qui d'ailleurs fait l'exposition qui est au MacVal en ce moment, sur les différences, qui est une historienne de l'art d'une autre génération, beaucoup plus jeune, etc., parce qu'on commence à être un peu vieillot, bien que toi, lui, il est un peu comme Dorian Gray. Hein, parce que
oui, oui.
J'avais fait cette émission il y a 30 ans.
On va
il
parler
était
de ce qu'il y a à l'expo juste après, je vais te mettre un peu de pub, tu vois.
Il est un peu comme Dorian Gray, je ne bouge pas du
Hervé,
tout.
On fait des grands signes, on doit foutre la pause pub maintenant, on se retrouve après.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
On est avec Hervé Di Rosa. C'est vrai qu'on a l'impression, on pourrait déboucher des bouteilles, qu'on resterait là à causer. Hervé, il faut des raisons maintenant pour inviter les gens. C'est cette exposition au Musée international des arts modestes, le Miam, à 7. Ça fait combien de temps le Miam déjà maintenant que
ça fait 17 ans cette année.
Ça fait 17 ans.
On a ouvert en 2000, ouais.
Il y a de tout, il y a des œuvres d'art, il y a des collections.
Oui, il y a des collections, c'est surtout un lieu où on a un point de vue différent, parce que pourquoi ce lieu existe, tu vois, je ne veux pas remplacer les commissaires d'exposition, les conservateurs, etc., ils font très bien leur boulot, mais j'ai l'impression qu'on a toujours le même point de vue en France. Et à la place de râler, de dire, ouais, c'est toujours les mêmes qui exposent à Beaubourg, etc., j'ai décidé de faire ce musée à 7, on m'a proposé ça, c'était à l'époque, en 99, c'était Madame Trottmann qui m'avait proposé ça, et le maire de 7 de l'époque, François Liberti, et le musée après a été repris par François Comen, le maire d'aujourd'hui, depuis, ça fait 3 mandats qu'il est là et qui soutient, et on a même un projet de l'agrandir, de le déplacer, de l'agrandir, d'en faire un lieu beaucoup plus, avec beaucoup plus de choses à l'intérieur, avec une grosse partie musée, et c'est un lieu qui étudie, qui donne d'autres points de vue sur la création contemporaine, en la faisant dialoguer, j'aime pas trop ce truc, mais en le faisant dialoguer, en le mettant en même temps que de l'art populaire, de l'art brut, etc. On est très sectarisé il y a 15 ans en France, etc. Aujourd'hui, beaucoup moins, grâce au Quai Branly, par exemple.
Absolument.
Grâce à des lieux comme ça. Donc aujourd'hui, je remets en question aussi le projet du Miam, qui doit être un projet, puisque c'est le seul projet qui est dirigé par un artiste, et où je veux inviter des artistes pour diriger des expositions. Faire le contraire de ce qu'on fait d'habitude, parce que tu sais, nous, les artistes, on a deux solutions. Où il n'y a pas d'argent, on fait de la bricole et on s'arrange. Où il y a de l'argent et on fait des caprices. Et l'intérêt, c'est d'être de l'autre côté du miroir et de voir comment on monte une exposition, comment, combien coûtent les transports, combien coûtent... Et ça, c'est ça, j'ai beaucoup appris, moi, en 17 ans. Quand je suis arrivé, quand j'ai été président de cette association, je te dis, en 99, je ne savais même pas ce que c'était un RSA, un RMI, les contrats à durée déterminée, etc. Je ne savais même pas ce que c'était tout ça et j'ai beaucoup appris. Ça a été dur, mais j'ai beaucoup appris. Je suis assez content que ce musée aujourd'hui rayonne jusqu'à Paris. Et donc, cette exposition, comme je te dis, il y a 70 artistes.
Alors, c'est vrai qu'à l'époque, les musées étaient intimidants, maintenant moins. C'est l'un des premiers musées où tu pouvais rentrer quand tu étais enfant et tu disais pas, c'est pas pour moi l'art, c'est un truc pour les grands.
Tout à fait. Et pourtant, tu pouvais être face à Claude Lévesque ou Xavier Veil, il y a des artistes pas forcément faciles pour le néophyte. Tu vois, c'est ça surtout. Moi, surtout, ce que je veux pas, c'est que je veux pas que les artistes changent pour un public de néophyte. C'est au lieu, à l'endroit, au conservateur, au commissaire, etc., de changer, de positionner les œuvres de certaines manières, que le soit accessible.
Non mais tu m'engueules là, tu m'engueules.
Oui, mais que ce soit accessible.
Là tu m'engueules là. Là vous êtes de mauvaise foi. Alors là, l'expo s'appelle En toute modestie, qui est le titre le moins modeste qu'on ait pu trouver. C'est sur tes goûts personnels à toi.
Ouais, en fait, on a croisé Julie Crène, justement, j'en avais marre un petit peu de mes goûts, de nos goûts, parce qu'on est quand même un petit réseau déjà, en 17 ans, on a quand même développé un réseau. Et donc, on avait envie de gens extérieurs, d'un souffle neuf. Et moi, j'ai proposé des artistes, et elle m'en a proposé. Alors ça va, tu vois, de
faire. Alors là, j'ai la liste. Il y a ton panthéon personnel, on dit, de Jérôme Bosch à Pierre Molinier. Il y a des contemporains, Jean Dubuffet, Erland, Jeanne Leroy. Et puis des gens qui réactivent les arts modestes, Lucien Murat, Agathe Pitié, Sarah Tritz.
Plein de jeunes que voilà. En plus, j'ai découvert grâce à ça des jeunes qui ont 25-30 ans, des jeunes artistes, que cette jeune dame, Julie Crène, dont elle s'occupe.
Ah, tu l'aimes, c'est Julie Crène, tu me l'as dit.
Elle est drôlement intelligente, ça je peux te le dire, elle est plus intelligente que nous deux réunis.
Oula.
Et plus cultivée, en plus.
Et en plus, elle tient bien sa fourchette.
Ah ouais.
Et dis-moi, ça c'est à 7 jusqu'en septembre, ça va voyager cette expo ou pas?
Non, puisque c'est la suite, c'est le second volet de l'exposition qu'il y a eu chez Galbert, donc ça a été de octobre à janvier à Paris, de février à septembre à 7. Mais par contre, il y a une autre exposition en ce moment à Paris, pour ceux qui ne se déplaceraient pas.
Oui.
C'est presque aussi loin, remarque, c'est à Saint-Gratien,
oui.
Dans le nord de Paris, je ne connaissais pas.
Oui.
L'espace Jacques Villéglé s'appelle le Théâtre d'Ombre, l'exposition qu'il y a de mes peintures là, actuellement.
Voilà, il y a tes peintures. Mais comme on dirait dans un magazine féminin, alors on court à 7 pour l'exposition au Miam. Toi, Lorina, tu es déjà allée dans un musée ou pas?
Oui.
Tu es allée à quel musée?
Au musée du Louvre. Au musée de l'Homme.
Oui.
À la Géode.
Qu'est-ce que tu as préféré? Est-ce qu'il y a quelque chose au Louvre que tu as vu, que t'as aimé? Qu'est-ce qui te vient comme ça?
Les statues.
Les statues, oui.
Ça, les statues.
Ça, les statues, c'est bon. Alors, Lorina, elle écrit des poèmes. Tu es venue... Depuis quand tu écris des poèmes, Lorina, toi?
Le CP.
Et c'était venu comme ça, toute seule, ou c'était une idée de tes parents?
Non, c'est moi.
Et c'était dans un journal intime secret, ou tout de suite, t'allais leur lire?
Non, c'était à l'étude. Et bah, j'ai écrit mon premier poème et ensuite je leur ai montré le soir.
Ah bah alors on va en écouter. Hein, alors.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant.
Un enfant.
Un poème.
Un poème de Lorina qu'elle nous dit elle-même.
Le cygne. Cygne d'argent, ton manteau si blanc, si soyeux, aussi blanc que le ciel nuageux, flottant sur l'eau. Je ne vois plus que toi, comme un éventail de soie, tu déploies ton manteau semé d'argent. Et dans ce lac scintillant, miroite un nuage blanc, disparaissant dans un bleu azuré. Lorina Diecheux.
Merci. Bravo, Lorina, superbe.
C'est magnifique, hein.
C'est superbe.
Tu et connais la musique de Saint-Saëns? La musique de Camille Saint-Saëns sur le cygne? La musique de Camille Saint-Saëns, le compositeur.
Moi, vous pouvez nous la fredonner? On le voit déployer ses ailes, effectivement.
C'est la mort du cygne dans le carnaval des animaux.
Un deuxième poème de Lorina.
Ouais, je n'en espérais pas tant.
J'ai ramassé des étoiles. Hier soir, en allant me coucher, est venue me chercher une fusée toute dorée. Hier soir, sur la lune, je suis allée. En souvenir, j'ai ramassé des étoiles à mes pieds. Hier soir, la fusée revenue me chercher a voulu me recoucher, mais j'ai refusé. Elle me l'a donc accordé. Le lendemain, je me suis réveillée. Les étoiles, je les ai cachées dans ma chambre à coucher. Lorina.
Super, merci.
Bravo, hein.
C'était donc un les poèmes de Lorina. Pendant que François Rollin mimait tout avec de toute l'œuvre de Saint-Saëns chantée au micro, pendant qu'Hervé Di Rosa dessinait la situation. Merci à tous. Après ça, je peux prendre ma retraite. Et voici le journal de Justine. Merci.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaous, des wawa, des cotes. Tous les animaux de la ferme sont là. Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Edouard Baird.
Justine pour les infos.
Renforcer le partenariat entre la France et la Russie, c'est la ligne directrice qui ressort du premier entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État étaient réunis hier à Versailles pour évoquer plusieurs dossiers. Droits de l'homme en Tchétchénie et en Russie, Syrie, lutte contre le terrorisme. Sur la question des personnes LGBT notamment, Emmanuel Macron a affirmé que son homologue russe était prêt à prendre des mesures pour faire la vérité complète sur les accusations de répression d'homosexuels en Tchétchénie. La polémique sur le festival afroféministe Niasampo continue. L'événement qui doit se dérouler fin juillet à Paris prévoit plusieurs espaces réservés aux femmes noires. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a demandé dans un premier temps l'interdiction du festival interdit aux blancs, je cite, avant d'affirmer qu'un compromis avait été trouvé. Pour leur part, les organisateurs ont déclaré n'avoir pas changé leur programme d'un pouce. Dans l'actualité internationale, l'ancien dictateur panaméen Manuel Antonio Noriega est mort cette nuit à la suite d'une tumeur cérébrale à l'âge de 83 ans. Manuel Antonio Noriega avait notamment été l'agent double des services de renseignement américains et cubains, associé des cartels colombiens de la cocaïne avant de devenir chef des forces armées panaméennes. Julian Assange pourra rester à l'ambassade de l'Équateur à Londres, c'est ce que le président équatorien Lénine Moreno a annoncé hier. Une annonce qui intervient une semaine après le classement sans suite de la plainte pour viol déposée contre Julian Assange en Suède. Le fondateur de Wikileaks s'est réfugié depuis juin 2012 dans cette ambassade pour échapper à un mandat d'arrêt européen. Theresa May prête à une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, quel que soit l'aboutissement des négociations avec l'UE. La première ministre britannique a notamment affirmé que pas d'accord est mieux qu'un mauvais accord, au contraire de son adversaire Jeremy Corbyn, leader du Parti travailliste. Le tabac est un marqueur social, c'est ce que révèle une étude publiée ce matin par Santé publique France. Entre 2010 et 2016, le nombre de fumeurs quotidiens a surtout augmenté parmi les catégories sociales les plus défavorisées. Les raisons sont multiples. L'agence sanitaire cite le stress, la méfiance à l'égard des messages de prévention, les difficultés à se projeter dans l'avenir, une plus forte dépendance à la nicotine et une norme sociale en faveur du tabagisme.
Alors vous savez que les gens qui travaillent dans le marketing maintenant sur le Mac comme Facebook utilisent les mêmes armes que le marketing du tabac à peu près maintenant. Salut, à tout de suite, je sors du journal.
Et puis la météo pour finir, un temps nuageux sur l'ensemble de la France aujourd'hui, avec plus de soleil pour la Corse et la côte atlantique. Les températures seront moins élevées que ces derniers jours, mais resteront chaudes. 22 degrés à Paris, 25 à Marseille, 20 à Rennes et 18 à Lille.
Vous avez dit le mot température avec énormément de grâce, surtout le « en » avant l'opérature. L'opérature était normale, mais au moment du « en », il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé dans
le
studio.
Vous voulez que je le répète ?
Écoutez, oui, mais c'est, parfois on n'a pas la grâce de la première fois. Donc,
on va le laisser comme ça.
Non, alors tentons-le, parce que tant pis.
Température ?
Non, parce que, alors, dites deux mots avant, parce que sinon vous y pensez trop.
Alors, et la côte atlantique, les températures seront moins élevées.
Ah oui, ça y était encore. C'est très étonnant ce qui se passe. On part dans la rue, merci infiniment, on part avec vous.
On est au sud de Bastille, Fada.
Vous êtes où là?
Sud de Bastille, vers la rue de Lyon.
Qu'est-ce que c'est que cet accent provençal à la con?
C'est Annie qui m'a dit de prendre cet accent.
Mais ne faites pas tout ce que vous disent les gens, Jacques.
J'ai craqué.
Donc vous êtes là. Bonjour, il y a des gens qui sont à l'apéro là à 8h05 du matin?
Non, pour se requinquer pour le matin, c'est bien ça, non?
C'est le fameux tous bourrés des 8h, soutien aux viticulteurs?
Exactement. Donc la vérité, Annie, c'est que la vérité, vous avez un petit sac en liège et vous l'avez ouvert pour sortir votre téléphone portable et tombé du téléphone une ampoule de détox, vous m'avez dit, parce que vous détoxifiez le foie.
Mon foie, parce que c'est vrai que cet été, l'été commence,
oui.
Qu'on fait, on prend l'apéro dès 8h.
Tout va bien se passer, Annie. Je pense que ce mélange de radis noir et d'artichaut va vraiment vous faire beaucoup de bien.
Exactement. Et pissenlit et de thé vert aussi.
Avec ça, vous pouvez évidemment vous faire un nombre considérable de bouteilles de blanc. Donc, vous préférez anticiper les fautes à venir, Annie, dans la vie. Vous anticipez ce que vous allez faire de mal, ce que vous allez regretter.
Oui, faut... qu'est-ce qu'on dit déjà
mieux, mieux vaut prévenir que guérir.
Exactement, je prépare mon foie pour cet été.
Et est-ce que vous faites pareil, par exemple, dans la religion catholique? Est-ce que vous allez vous confesser avant de commettre le péché?
Non, ça je ne connais pas ça.
Est-ce que vous vous excusez avant d'avoir fait une erreur? Vous dites, tiens, je pense que je vais mal me comporter.
Non plus.
Donc ça n'est que dans votre rapport à l'alcool?
Plutôt oui.
Et au niveau nourriture, Annie, je vous sens sur les beignets, je vous sens sur des fritures en ce moment, je sens que vous avez...
Ah non, je suis plutôt anti-pastis. Anti-pastis, charcuterie, fromage, apéro quoi.
Vous marchiez dans Paris, Annie, quel était votre projet pour aujourd'hui?
Aller au boulot en fait.
Donc c'est sur la route du boulot, c'est le fameux apéro avant le boulot.
Mais pas anti-pastis.
Exactement. Non mais remettons les choses en place, on n'est pas à la terrasse d'un café. Annie, je l'ai croisée parce que surtout elle avait... un exemplaire de Zola au bonheur des dames dans les mains.
Oui, ouais. C'est bien Zola.
Ah au bonheur des dames, c'est formidable. Vous travaillez dans un grand magasin vous-même?
Non, pas du tout. Je travaille dans les assurances.
Alors, un peu de Zola, un petit apéro, 8 heures dans les assurances. Donc le soir, vous êtes pleine d'une énergie positive à les dépenser dans les rues.
Comme ça, le soir, je rattaque le vrai apéro.
Qu'est-ce que vous assurez, Annie? Vous assurez quoi?
La construction.
Donc,
des bâtiments.
D'accord. Des bâtiments privés, publics?
Les deux. C'est un peu de tout.
Donc j'arrive, je dis, tiens, j'ai envie de bâtir une tour Eiffel. Vous me dites...
Banco.
Je cherche à comprendre les métiers concrètement, comment ça se passe.
Au bonheur des dames, c'est un bâtiment qui est construit. C'est le bon marché, c'est peut-être ça qui l'a inspiré.
Exactement,
ouais. Super. À lire.
Mais me spoilez pas, j'en suis qu'au début. Hein.
Ah pardon, à la fin, c'est le gros...
Vous verrez, c'est Julien Mouret qui a le magasin. Voilà.
C'est le gros qui se termine mal pour le petit magasin, puis c'est le gros qui a fait le coup. Et le couteau est sous la table. Oui.
Qui a construit le bon marché?
Mais c'est
Boussico.
Exactement. Oui.
On vous souhaite une très belle journée, Annie.
Eh ben,
je réfléchis si je le pense vraiment. Oui, pas... oui. Je vous
et boire et conduire, de toute façon, on ne va pas rentrer à pied.
Ah, t'as pas le permis, tout ça.
C'est Jean Carmé qui dit. Un des brefs de comptoir. Salut, belle journée.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2h d'émission. Mais c'est beaucoup trop court. Hello.
C'est bien ce matin, l'incroyable énergie, le talent d'Andy Rosa. Tout à l'heure, il y aura Chassol qui va jouer du piano ici, et qui va chanter, qui va faire tout ce qu'il a envie de faire. Et puis là, il y a François Rollin qui est en train de faire répéter...
Il rature ma
Marie Missé, il lui donne un truc du Politbureau. Je crois que c'est Spoutnik ou Russia Today qui vous a écrit vos papiers, vous, François?
Non, mais parce qu'il y a des trucs trop pointus dans sa revue de presse. Disons, je conseille à tous les auditeurs un peu décérébrés de ne pas écouter sa revue de presse. Je viens de lire comme ça en diagonale. C'est très intelligent, c'est pointu, ça dit des choses fortes. C'est peut-être pas à la portée de tout le monde.
Moi, j'ai renoncé depuis.
Et moi.
C'est pas vrai.
Et vous savez qu'on me le dit souvent?
Quoi?
On me dit ça a l'air bien, mais je n'écoute pas.
Mais qui vous dit ça?
On m'a dit
mais
ça encore la semaine dernière.
C'est parce que parfois, tu parles un tout petit peu vite.
Oui.
Alors, la revue de presse de Marie Missé, un tout petit peu moins vite.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
La grande affaire à la une ce matin, c'est Emmanuel Macron et Vladimir Poutine avançant ensemble dans la galerie des batailles à Versailles. Macron offrant à Poutine, nous dit Guillaume Tabar en édito dans Le Figaro, le spectacle de la gloire française dans un geste qui relève à la fois de l'hommage et du défi. Attention tout de même, dit toujours Guillaume Tabar, la diplomatie de l'image est éphémère. Le Parisien, La Croix, Le Figaro, Libé s'accordent pour dire que les sujets fâcheux n'ont pas été évités, que Macron a évoqué le sort des homosexuels en Tchétchénie et taclé les deux médias financés par le Kremlin, RT et Spoutnik, organe de propagande, dit-il. Que Poutine a réaffirmé son soutien à certaines idées de Marine Le Pen. Bref, tous s'accordent pour dire qu'ils sont partagés et qu'ils ont partagé leur désaccord. C'est d'ailleurs le titre du Parisien. Mais, et c'est le Figaro qui le souligne en une, Macron et Poutine étaient d'accord pour lutter contre le terrorisme. D'ailleurs, c'est amusant, c'est aussi le seul point sur lequel les 7 du G7 sont tombés d'accord dans une courte conclusion de 6 pages ce week-end contre 30 en 2016. Le terrorisme, ça craint. Dans Le Monde, d'ailleurs, on lisait hier que même au Japon, où la criminalité très faible ne cesse de baisser depuis 2002, bien même au Japon, on estime qu'il faut lutter contre le terrorisme avec une nouvelle loi sur le renseignement nécessaire, selon le Premier ministre Shinzo Abe, en vue des Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. Dans la société civile, on se méfie un tout petit peu, hein, on n'est pas sûr que ce texte ne permettra pas tout simplement de ficher les opposants, de ficher d'ailleurs n'importe qui. Et on se rappelle des lois de préservation de l'ordre public de 1925. C'était le grand-père de Shinzo Abe, qui l'admire beaucoup.
Oui, je rappelle.
Qui avait permis de museler une opposition croissante au Japon. Shigeaki Iijima, spécialiste du droit constitutionnel, y voit une menace contre les trois premiers principes de la Constitution, le respect de l'homme, le pacifisme et la souveraineté populaire. En deux mots qu'il ne dit pas car il est poli, elle a bon dos, la lutte contre le terrorisme. Une opposition disparate dont on ne sait pas tout à fait les contours. C'est aussi l'enjeu à museler pour Nicolas Maduro au Venezuela. Libé consacre sa une et quatre pages aux troubles vénézuéliens. Libé s'intéresse notamment aux pénuries qui marquent le pays, au fait qu'au marché noir, un dollar s'échange contre 5000 bolivars, contre 700 sur les cours officiels, que partout on vend café, riz, farine dans des petits sachets plastiques qui contiennent 20 à 40 grammes de ces précieuses denrées. On appelle ces petits sachets des tétases, des petits seins qui ne suffisent pas tout à fait à nourrir même les membres de la classe moyenne. Si les faits sont là, il est plus compliqué d'y voir plus clair dans le combat politique. Maduro accuse des paramilitaires, des fascistes de l'opposition, fait tourner en boucle à la télé les images d'un jeune de 20 ans brûlé lors d'une manifestation parce qu'il soutient le gouvernement. En face, on parle d'exécutions extrajudiciaires, de mercenaires de l'État. On déplore 79 morts et des jeunes filles de 26 ans avouent qu'elles ont peur tout en demandant si c'est pas nous qui nous battons, qui le fera. D'après quelques anciens officiels cités par Libé, une majorité de Vénézuéliens ne se retrouve ni dans Maduro, ni dans l'opposition. Reste l'image tutélaire d'Hugo Chavez contre qui les langues ne se délient pas ou peu dans Libé. À ce propos, il y a dans le Figaro un article intéressant sur John Fitzgerald Kennedy, signé George Ayache. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui, ce président à l'image encore resplendissante, qui se rappelle qu'il fut malade, qu'il portait des corsets, qu'il était obsédé sexuel et que sa présidence ne fut pas fantastique. De toute façon, et décidément, finit fataliste George Ayache, lorsque la légende est plus belle que la réalité, on continuera longtemps à imprimer la légende. Et voilà qui devrait intéresser un homme qui arpente les couloirs de Versailles.
Merci beaucoup Marie Missé. Je reçois François Rollin de François Rollin Sécurité. François Rollin Sécurité, c'est le meilleur de la sécurité au service du citoyen. François Rollin Sécurité, c'est vous qui avez conçu tout le nouveau système de sécurité de Radio Nova, hein, les nouveaux systèmes de badge multifonction avec toutes les données personnelles dessus. François Rollin Sécurité, c'est l'exigence de vivre en toute tranquillité?
Alors, vous comprendrez déjà que je ne peux pas trop en dire sur le plan technique, pour des raisons évidentes.
De sécurité.
De sécurité. Bien sûr. Hein, donc, effectivement, j'ai mis en place un système de sécurité, mais je préfère dire que je n'ai rien mis en place, parce que sinon...
Si on en perd cette sécurité. Voilà. On peut dire quand même que depuis votre arrivée à Radio Nova, le nombre de vigiles a quintuplé, puisqu'il est passé de 1 à 5. Mais...
N'encombrez pas la tête des auditeurs avec des chiffres, le nombre de vigiles a évolué. Disons.
Alors, il y a une fouille qui est intégrale maintenant, avec palpation intime. Il y a des gens qui, de manière oui, passée 8 fois ce matin.
Là, c'est vraiment... je vous arrête, la fouille intégrale, oui, avec palpation intime, mais ça n'est pas pour la sécurité, c'est pour le plaisir.
Ah, très bien, très bien. Alors, il y a un système de traçabilité de nos vies personnelles, de nos données informatiques, c'est vraiment pour vivre en plus en sécurité au sein de l'entreprise Nova.
Voilà, mais ne croyez pas que vous soyez dans le collimateur de ma société.
Non, pas du tout.
Nous avons fait une petite enquête de voisinage. Qu'est-ce qu'on a vu, quoi? 400 personnes dans votre quartier, on a contacté 100 personnes dans votre famille et votre entourage. Ça s'arrête
non,
là.
Non, j'ai aucune parano, François.
Les rapports qui sont là, mais c'est à peine si je les lis. Oui, je les lis, parce que c'est mon métier. Donc, ça ne va pas plus loin.
Merci. Donc, avec François Rollin, sécurité, nous sommes en sécurité aujourd'hui en 2017.
Mais il y a un détecteur de métaux dans les toilettes, c'est normal aussi?
Il y a des petites caméras, ça n'a rien à voir. Merci beaucoup.
Plus près de toi. Plus près de toi.
7h, 9h.
Edouard Baird, 7h, 9h. À mon avis, il ne fait pas ça pour rien. Hein.
Elle te mène à arrêter de d'ouvrir les journaux par derrière, c'est-à-dire de lire d'abord l'horoscope, la météo et les pages people, s'il vous plaît. Mais non, au moins sur Internet, c'est un geste vraiment volontaire. Si vous allez voir de la saloperie, des trucs people, on appuie. Là, vous faites semblant, par hasard, vous ne vous arrêtez que sur les conneries.
Non, mais les artistes regardent toujours les journaux comme les musulmans, en arrière, vous voyez, comme ça, de gauche à droite.
Oui.
On regarde les pages people, on regarde les programmes télé. Tiens, regarde les Molières, regarde, tiens, Jade Lagardère qui sort sa BD, là, c'est magnifique.
Mais vous en tirez quoi ? Qu'est-ce que ça nous apporte, nous ?
Ben, je trouve que c'est plus joyeux, c'est des bonnes nouvelles. On sait que c'est du small talk, c'est du fake news, c'est tout n'importe quoi.
Voilà, mais vous dites que des mots anglais, vous ne méprisez même plus des small talk, des fake news, des happy hour et des happy birthday. Vous embrouillez tout, mon vieux.
On dit que Pirates des Caraïbes a marché, on dit que...
Mais enfin, reprends-toi, bordel !
Mais non, mais j'arrive pas !
Mais regarde ce que t'es devenu, t'as pris 15 kilos, t'as plus un poil sur le caillou, ta femme veut plus de toi, tu dors sur le canapé depuis 2 ans.
Ah, c'est vrai ça, c'est vrai.
Le jeu de François Rollin. François, bonjour, oui. Bienvenue bon, à bonjour. L'espace, le jeu oui. de François Rollin.
Alors, je ne vais pas vous faire jouer en direct parce que Thierry Paret, qui est le directeur du département information sur Nova, même
information
s'il n'est pas là ce matin,
divertissement.
M'a bien fait comprendre à coup de gifle que cette tranche matinale est dédiée davantage à l'information qu'à ce qu'il appelle, dans son langage de jeune, des jeux à la noix de coco.
Tout à fait, François.
Alors, je vous propose
encore
par
un jeu où aucun auditeur ne peut gagner quoi que ce soit.
Non, si, mais c'est ça, alors, c'est un jeu qui se a joué chez vous.
Alors,
un
jeu à la maison. On peut appeler des gens au hasard. J'ai ni fait des numéros au hasard.
Oui, qui nous dit. Alors, c'est un jeu auquel on peut jouer tranquillement
Tranquille,
pendant les pubs.
Sans pression.
Ça, alors, c'est le jeu du filocel.
No pression.
La règle est simple. La journée de jeu commence à midi.
Cool.
Et à partir de là,
Tranquille.
Le premier qui dit filocel a gagné.
Aucun problème.
À condition, et c'est là toute la difficulté du jeu, à condition qu'il puisse justifier de la pertinence de son propos.
Oui, là, si je dis filocel, là, j'ai pas gagné. Parce que
non,
c'est pas
à midi.
Alors,
midi.
Une combinaison gagnante consiste à faire, écoutez-moi bien, Edouard, parce qu'après, vous n'allez pas réussir à jouer.
Non, pardon, parce que je dis à Thomas Baumgartner de venir.
Une combinaison gagnante consiste à faire disparaître subrepticement les réserves de sel de la maison. Puis à demander à quelqu'un du sel, et quand ce quelqu'un dit « il n'y en a plus », on lui dit « va en acheter à l'épicerie », en prononçant le mot gagnant, « filocel ». Alors pour être honnête, c'est la seule combinaison gagnante, parce qu'il n'existe pas d'autre situation justifiant de dire « filocel ».
Ah si, quand même.
Bah essayez, vous allez voir.
Si, par exemple.
Aux toilettes, quand quelqu'un va aux toilettes, file au sel.
Non, alors.
Et si.
Non, à la selle, à la rigueur.
À la selle.
Bah oui, mais ce sera contesté.
Ta cousine, là, elle est matheuse. Ah oh non, elle est plutôt philos. Philos, elle.
Oh ouais, très bon jeu. Vous voyez qu'on en trouve.
On vous contestera le S. Hein.
Ouais, le S, philo, mais je me battrai quand même.
Ouais.
Vous êtes procédurier sur le
bon,
le
écoutez,
règlement,
en tout cas, mardi prochain, je vous apprendrai à jouer au fil au poivre, qui est une variante assez piquante du fil au sel.
François.
À midi, ouais.
François, regardez-moi dans les yeux. Sortez. Je suis désolé d'avoir à vous dire ça. Alors, vous avez depuis longtemps quitté l'école. Je vous demandais de quitter pour un moment le studio, d'aller pratiquer ce qu'on appelle le haut piqué les mains sur la tête. Ah oui, si. Ah si, mon vieux, ça ne me fait pas plus plaisir que vous.
Tant qu'il n'y a pas le bonnet d'âne.
Eh bien, ça tombe mal, parce que justement, Thomas Baumgartner, vous l'avez
j'en
retrouvé
J'en ai un,
où
absolument.
Je suis confus que ça se
dans un bureau.
Comme ça, François, cette journée. Très bien, le journal de Justine Martin.
Rappel des titres, donc avec le dialogue ouvert mais musclé qui a eu lieu hier.
Après, on vous mimera ce que c'est qu'un dialogue ouvert mais musclé.
Qui a eu lieu hier à Versailles.
Et
entre
on vous fera un discours fermé et mou après, pardon.
Entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État ont évoqué plusieurs dossiers comme les droits de l'homme en Tchétchénie, la lutte contre le terrorisme, la Syrie, en concluant tout de même sur le renforcement du partenariat entre les deux pays. Pas de ni-ni aux élections législatives cette année pour le parti des Républicains. Le chef de file François Baroin a annoncé hier un désistement de ses candidats en cas d'une victoire FN au premier tour le 11 juin prochain. 19 eurodéputés visés par une enquête préliminaire pour abus de confiance. L'enquête ouverte par le parquet de Paris à la suite d'une lettre de la députée européenne Front National Sophie Montel vise notamment Marielle de Sarnez, actuelle ministre des Affaires européennes. Dans l'actualité internationale, l'accueil de Julian Assange à l'ambassade équatorienne de Londres prolongé, selon les déclarations du président Lénine Moreno hier après-midi. Le fondateur de Wikileaks s'est réfugié dans cette ambassade depuis juin 2012. Il risque notamment une lourde condamnation pour la publication de documents confidentiels, militaires et diplomatiques. La consommation de tabac augmente en France, mais uniquement parmi les plus défavorisés. C'est ce que révèle une étude publiée ce matin par Santé publique France qui explique ce phénomène par le stress, la méfiance à l'égard des messages de prévention et la forte dépendance à la nicotine. La météo, pour finir, avec un temps nuageux partout en France, sauf en Corse et sur la côte atlantique. 22 degrés à Paris, 25 degrés à Marseille, 20 à Rennes et 18 à Lille.
Justine Martin, vous ne m'avez pas vendu du rêve sur la météo, là. Vous m'avez, je sais pas, vous m'auriez annoncé moins 4, vous auriez... Il faut me la faire vivre. Hein. Il faut, vous devez être à la fois, si vous voulez, Laurent Delahousse et à la fois Evelyne Delia.
Pour la prochaine fois.
Très bien, merci, c'est noté.
C'est juste à côté ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette sortie ?
En fait, on va voir une exposition qui s'appelle « L'art et le sport ».
L'art et le sport ?
Oui.
C'est l'école où il y a le drapeau, là ?
Oui.
On est sur une sortie scolaire, là ?
Je vais avoir une sortie aujourd'hui, donc oui.
Mais tu t'appelles comment ?
Béatrice.
Et Béatrice, là, tu as croisé Jacques dans la rue qui t'a posé des questions ?
Oui, il est en train de le faire.
Il est plutôt sympa ?
Oui.
Et pourquoi tu t'es dit, moi, je veux bien lui répondre à ce type-là ?
Parce que j'aime bien.
Oh bah ouais. Et souvent, les gens, ils te disent que tu es timide ou ils te disent que tu n'es pas timide ?
Timide.
C'est-à-dire, parfois, on te demande quelque chose, tu deviens toute rouge ?
Non, c'est des fois, quand j'étais petite au téléphone, j'étais timide.
Et tu répondais pas du tout ?
Non.
Mais c'est quand c'était pour toi ou pour tes parents ?
Pour moi.
Ah bon ? Mais c'était qui t'appelait, à qui tu voulais pas parler ?
C'était mon parent.
Ah oui, mais tu le voyais peut-être pas très souvent ?
Non, vu qu'il habitait au Portugal.
Et est-ce qu'il parlait avec un accent portugais ? Peut-être tu comprenais pas tout ?
Si, je comprenais le portugais, parce que j'aimais pas parler au téléphone.
Et il te parlait dans quelle langue, lui ?
En portugais.
Il avait peut-être une voix un petit peu intimidante, tu sais, des voix à moustache.
Béatrice, ton fausse pareil, je pense, hein ?
Non ?
Oui.
Eh oui, peut-être ça t'a intimidé parce que la grosse voix, le Portugal, un monsieur peut-être. Alors toi, tu répondais rien et dis,
Non.
Béatrice, tout va bien.
Et toi, tu répondais je vais te passer ma maman. Tu disais quoi dans ces cas-là ?
Non, en fait, c'est ma mère qui me passait le téléphone et j'allais dans ma chambre, je le prenais pas.
Ah oui, tu faisais des grands noms avec la main. Tu disais non, je veux pas lui parler.
Oui.
Et ta mère, c'était déjà un portable, donc elle courait jusqu'à ta chambre. Elle dit, si, tu vas parler à Longo Rodrigo. Comment il s'appelait par un ? C'était quoi son prénom ?
Ronaldo.
Alors,
bon, très bon joueur.
Alors donc, on est là. On va essayer de revivre cette situation pour comme ça, tu vas t'en libérer. Donc, tu es là.
Okay.
Regarde. Chérie, tu veux parler à par un Ronaldo ? Tu veux ?
Je veux te parler tout de suite, c'est important, je vais t'inviter à Lisbonne.
Et alors
Là, on est en train de s'approcher de l'école.
Oui, je crois que... Merci, ma chérie. Oui.
Bon, vous voyez que Edouard n'est pas le seul à détester les accents mal contrefaits.
Non.
Un accent raté, c'est mieux qu'une voix neutre réussie. Alors... Béatrice, je te souhaite une belle journée, l'art et le sport. J'essaie de voir en quoi ça consiste. C'est des gens qui ont peint des tennismans ou des gens qui jouent au foot avec des sculptures ?
Non, c'est pareil, c'est une exposition sur les vélos.
Ah bon ?
Oui.
Mais tu crois que c'est des artistes qui ont, par exemple, qui ont fait des compressions de vélos, qui ont peint sur des vélos ?
Notre prof d'art artistique, elle nous a déjà montré quelques sculptures. En fait, c'est des sculptures faites avec des trucs de sport.
Et ta prof d'art artistique, est-ce qu'elle donne aussi des cours d'art qui sont un petit peu moins artistiques ou tous les arts sont artistiques ?
Je sais pas.
Bah tu lui demanderas quand même. Mmh. Bon, eh ben écoute, alors je te belle expo de vélo. Puis, tu fais.
Merci.
Et tu vas partir en vacances cet été ?
Oui.
Au Portugal ?
Oui.
Ah ben oui, il va falloir être gentil avec. Allez, on t'envoie. T'es super, Béatrice. Salut.
Salut.
Yves, là, qui est cette personne qui arrive ? Bastien, arrêtez cette personne. C'est pas, arrêtez là. Qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas le temps de mettre ce morceau. Attendez, je n'ai pas le temps de mettre un morceau parce qu'il y a Chassol qui va jouer en live. On arrête du public de Chassol qui vient là. Voilà, venez toutes. Vous allez toutes écouter Chassol là ?
Mademoiselle, il y a juste une place. Vous allez écouter Chassol aussi?
Oui.
Mais vous êtes une fan de Chassol?
Absolument.
Eh bien, alors, allez vous installer au premier rang. Vous êtes formidable. Alors, on est avec Rachel Kahn qui est là. Je suis obligé de passer en accélération, François, de oui. passer en 78 tours parce que là, il y a beaucoup de choses. On va aller. Et Rachel Kahn vient d'arriver. Rachel Kahn, de quoi s'agit-il aujourd'hui?
Bonjour, Edouard Baird.
Bonjour, Rachel
Bonjour
Kahn.
Tout le monde. Il s'agit de Linky, une nouvelle application. Il s'agit d'une rencontre. Julien Miémont, qui travaillait avec Christiane Taubira, que j'ai rencontré dans une ancienne vie politique, et qui avait un objectif.
Oui, parce qu'à l'époque, vous travailliez à la région, vous occupiez de culture.
Oui,
et tout ça,
puis je m'occupais. Puis, voilà, merci beaucoup.
Vous croisiez Strauss-Kahn dans les couloirs de la rue Barbé de Jouy, vous racontiez ses moments de grâce.
Absolument,
oui.
Il m'enseignait beaucoup de choses d'ailleurs.
Alors, et donc là, ça n'a rien à voir avec tout ça.
Non, il s'agit de lutte contre le gaspillage alimentaire et de lutte contre la faim à Paris.
Alors c'est une application, c'est vrai, je crois qu'il met en rapport des pseudo-consommateurs, des gens qui n'auraient pas le droit de s'acheter de la nourriture et des magasins qui allaient jeter, puisqu'on sait que beaucoup maintenant de grands magasins soit détruisent la nourriture, soit la passent à la Javel, soit broient tout à la fois pour ne pas qu'on le récupère.
Exactement, et cette petite application est une application intelligente. Moi j'ai eu un coup de foudre pour elle, pour les équipes, pour Julien. Pour moi, c'est une mise en place, une mise en œuvre de la démocratie. Et Julien et ses équipes, avec cette application, font rimer modernité et solidarité. Et donc, c'est pourquoi on les reçoit ce soir à Causette.
Alors, et là, on l'a au téléphone. Julien, bonjour.
Bonjour.
Alors, rappelez-nous donc ce que permet cette application Linky.
Ben, c'est très simple. Ça permet à chacun d'entre nous, à chaque citoyen, à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire et d'aider les gens qui en ont besoin. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui qu'il y a tous les commerçants, tous les supermarchés, les traiteurs, les boulangeries, tous sont obligés de jeter finalement une petite partie de leur production, c'est à peu près 10%, mais grosso modo ça représente 1,3 milliard de tonnes par an disponibles de surplus alimentaire. Je parle des surplus, c'est-à-dire tout ce qu'on peut manger qui est encore bon. Je ne parle pas des déchets, je ne parle pas des épluchures, etc. Ça, c'est encore autre chose. Donc ces surplus alimentaires, pour quantité de raisons, finissent à la poubelle. Or, il y a à côté de ça 5, 6 millions, 7 millions de personnes aujourd'hui en France qui ne mangent pas à leur faim. Donc l'idée, c'était de trouver un mécanisme citoyen qui permettait de mettre en relation les deux, de faire en sorte qu'on aille toucher cette population. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des sacs isothermes, donc avec un système qui est totalement sécurisé pour les commerçants, des sacs isothermes dans les magasins. Et les gens, avec l'application, peuvent identifier un magasin à proximité de là où ils sont et prendre un sac, donc un sac ça pèse à peu près 3 kilos, et l'apporter à une association à proximité qu'on a identifiée aussi et dont on sait qu'elle a besoin de ces produits-là.
D'accord, donc voilà, c'est pour les consommateurs qui décident d'acheter un peu plus pour partager. Ce ne sont pas les magasins qui donnent leur surplus alimentaire.
Si, pardon, alors j'ai pas été clair, ce sont les magasins qui donnent leur surplus alimentaire. C'est pas du tout les citoyens qui achètent, c'est les magasins qui donnent leur surplus alimentaire.
Les citoyens font le transport, font la logistique.
Ils font le transport, c'est exactement ça, ils font la logistique. Parce que le gros problème de la loi anti-gaspillage alimentaire qui a été votée, qui favorise de bonnes évolutions, c'est le problème logistique, c'est que personne ne sait comment transporter tout ça. Et on s'est dit qu'en mettant à contribution tous les citoyens, il y a plein de gens qui veulent aider, il y a plein de gens qui sont solidaires, il y a plein de gens qui disent « moi j'aimerais bien, mais j'aimerais bien faire un truc concret ». Et là, ça prend une demi-heure de votre temps, vous pouvez le faire une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, et vous transportez, à chaque fois que vous le faites, vous transportez l'équivalent de 6 repas.
Alors ça, comment on fait concrètement avec l'application ?
Ah ben c'est très simple, on prend l'application, on télécharge l'application et on voit, donc on va sur le site internet linky.co.co, donc linkee.co, et puis on s'inscrit. Et à ce moment-là, on va pouvoir identifier à proximité de là où on se trouve des magasins qui ont un sac ou deux sacs ou trois sacs, et puis on en choisit un parmi ceux-là, et une association à proximité ou une association sur notre trajet. Ce qui fait que vous pouvez le faire à pied, à vélo, en trottinette, en métro, en bus, comme vous voulez.
Merci beaucoup.
Une demi-heure. Il faut que ce soit une demi-heure pour le faire.
Voilà. Linky.co, donc allez voir,
L-I-N-K-2-E.
Exactement.
Voilà. Et ce soir, on reçoit Linky, donc pour une petite soirée.
Une Linky party.
Exactement, voilà,
c'est
à la galerie Causette.
On est très heureux de ça.
Et ben moi aussi.
Merci Rachel et Eric. Il y a aussi une belle initiative, mais ça, il faut que ça se développe. Des cafés commencent à le mettre en place. Ça vient de Naples. Vous allez au café quand vous prenez un café ou un croissant ou un peu plus, vous en payez deux et vous dites l'autre est à suivre. Ça s'appelle un café à suivre. C'est-à-dire si quelqu'un arrive et qu'il n'a pas le quoi se le payer, le cafetier le lui donne. Salut. À bientôt, merci. D'accord.
Sur Nova, Lewis Hoffman avec le morceau Flash. Edouard est déjà dans le grand café Nova pour le live de Chassol. On les retrouvera dans un instant.
7h, 9h, plus près de toi.
Nova, plus près de toi.
Edouard Baer.
Détail technique. Moi aussi, je suis très désagréable. Je suis à l'antenne. On est à l'antenne avec Chassol dans cette ambiance de bar d'hôtel. On est là. Il joue du piano, j'ai le micro, quelques jeunes femmes, des jeunes femmes tiennent des cocktails. Chassol, beaucoup de gens apprennent la guitare pour pouvoir en jouer partout aujourd'hui, sur la plage, dans leur lit, dans leur baignoire. Et tu me disais que le piano aussi est un instrument qui se transporte beaucoup plus facilement qu'on croit.
Oui, piano sec, on peut en jouer un peu partout et c'est en effet pour cela que j'ai commencé, pour pouvoir en jouer à la plage, dans les colos, tout ça. Et finalement, c'est trop pas comprendre. Ça s'est pas bien passé finalement. Donc je fais, j'ai pas de vanne.
Non, mais tu es pas obligé du tout, non. Pourtant, j'ai lu ton livre Instruments de musique et séduction. Tu dis que le joueur de triangle entre souvent seul le soir après le concert, mais le pianiste non.
Pianiste, disons que comment te dire. Là, je vais te dire, il est 7h du matin et. Et j'ai un enfant, je ne fais plus du tout de blagues comme ça en fait.
J'ai la liste des blagues que tu ne fais plus, il y en a beaucoup aussi. Tu m'as dit j'ai arrêté les blagues racistes, antisémites.
Non, ça je continue là, j'en ai un paquet. Oh là non, je ne peux pas sortir ce genre de truc à l'antenne. Non ?
Non.
Il y a un staff, il y a 15 gardes du corps américains qui entourent. Si vas-y, écoute quoi.
Oh, ça va, elle est mignonne, non ? Je peux ou pas ? C'est immonde.
Elle est immonde ?
Elle est immonde.
Bon, écoute, on l'a dit ou pas ? Oui. Une blague immonde, il y a des clients, d'autres non. Je crois que c'est une carrière qui peut s'effoncer, s'effondrer, parce que je sais que tu as bâti cette carrière de gendre idéal, maintenant, Chassol.
C'est vrai. Et en plus, ça touche directement ma belle famille, donc ça ne se fait pas. Ça touche directement leurs origines ethniques.
C'est bien, j'adore, ils sont d'où ?
Israélites.
Ah, si on va se moquer des juifs, des noirs, des musulmans, des cathos aussi.
Et des gros.
Des gros et des maigres ?
Non, des gros, parce que c'est pas bien d'être gros dans notre société.
Et des chauves ?
J'ai commencé un produit, là justement, ça a l'air de marcher. Ça va ou pas ?
Je trouve que tu as une capillarité magnifique, pourtant tu n'es plus si jeune, Chassol.
Écoute, je vais sur mes... Ouais, non, si, carrément, j'aurai 42 ans dans 2 ans.
Et chez vous, les noirs, ça se voit moins.
Dis-moi, tu es
asiatique. Je suis asiatique, c'est pour ça que j'ai 80 ans, ça se voit pas. Une présentation par l'honorable Rudy, l'homme qui réconcilie toutes les races et toutes les religions.
Voilà, c'est ça, exactement. Des semaines, que dis-je, des mois que nous courons après l'étranger, le prodige, le jeune homme dont les yeux parlent avec les oreilles, celui dont la musique parle et vade aussi bien les enfants que les plus grands, celui qu'aujourd'hui le monde nous envie, j'ai nommé Christophe Chassol. Le défi du jour serait de nommer, d'expliquer, de mettre en mots la musique que compose Chassol. Mission vaine, impossible et voire même peu intéressante, tant Chassol a réussi à créer au fil des années et de son œuvre son propre univers qu'il nomme lui-même l'Ultrascore. La musique de Chassol s'écoute autant qu'elle s'imagine, se regarde autant qu'elle se décortique naturellement à nous. Chassol arrive à faire d'une note, d'une gamme, un morceau qui en devient une mélodie, une harmonie à la frontière de la pop. Oui, de la pop, et n'ayons pas peur de le dire, et c'est d'ailleurs pas un hasard si aujourd'hui des pop stars tels que Frank Ocean, Diplo et Consoeur sont si admiratifs de son travail, faire vivre les sons de la rue, du peuple, du quotidien, qu'ils soient à la Nouvelle-Orléans, Calcutta, en Martinique ou dans un speech d'Obama. Chassol, à la manière d'un peintre, sublime le monde, l'orchestre le met en harmonie. Hier, nous parlions poésie avec Bachar Markhalifeh.
Ah bon ?
Ce matin, nous parlons racisme et nous le dégustons.
Quoi
avec
qu'est-ce que c'est que ces notions
qui déteste le veto. Merci de.
Merci beaucoup à Rudy, qu'on applaudit.
On parle évidemment poésie et pas racisme. Et hier, il y avait sur ton fil Facebook, quand tu as annoncé que tu venais ici ce matin, il y avait une certaine Isabelle Montou-Martina qui a dit ces petits mots qui sont très jolis. La trace, leur trace, notre trace, la tienne Christophe. Merci, c'est superbe. Je ressens là-bas, chez eux, chez toi, chez moi. Merci d'être là.
Merci Rudy pour cette présentation qui était trop courte, on me le signale. Je suis l'espace d'Irosa, prêt à écouter pendant que Chassol prépare son instrument qu'il polie. Quelle est la différence majeure entre un pianiste et un peintre, Hervé d'Irosa ?
Le peintre, il a plus de temps que le pianiste, non? C'est pas ça? C'est une histoire de temps.
Une histoire de temps?
De temps, non? On a plus de temps que, on a plus de temps que vous, quoi. Non, je me permettrai. Du temps!
On se parle à 15 mètres, hein, excusez-nous, chers auditeurs, on est à 15 mètres.
J'ai l'impression qu'on a plus de temps que vous, quoi. Parce que vous êtes devant le public, nous, on n'est jamais devant le public. Alors, ça, c'est un grand avantage, on est tout le temps caché derrière. Vous êtes en face du public, comme là.
Mais
vous ne pourrez pas faire, d'ailleurs.
Tu vois. Comme Picasso, il met un quart d'heure et 50 ans pour faire un morceau.
Ah oui, on va écouter alors.
On écoute Chassol. Merci. Du bruit ici! Ah, il y a un monde ce matin. C'était Chassol ici dans le Grand Café Nova. Merci. Merci à toi, camarade. À demain. Bonne journée.
Tout petit, si tu peux faire tes adieux.
Édouard Baer.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.